le montagne nos vallées, et nos campagnes nos cités, un peuple nous s'assemble pour louer Dieu et proclamer en son nom qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être Seigneur. Dieu nous appelle à servir sur la terre, nous annonçons le roi. Alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ.
Alors là, je me répète, oulala, ça c'est presque trop, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Église évangélique de Mérin, que vous soyez ici comme visiteur ou bien régulier. Le thème de ce matin, quand Philippe nous l'a partagé, il a parlé d'Étienne, il a parlé de Philippe, il a parlé de Simon, donc je me suis dit, il y avait beaucoup de prénoms, et je dois vous dire que ça m'a un petit peu inspiré en me disant, mais finalement ce culte, est-ce qu'on ne partagerait pas nos prénoms? Alors c'est vrai qu'autour de vous, vous avez peut-être des personnes que vous connaissez, des prénoms, peut-être que non. Alors je vous propose, en guise de salutation, de vous saluer en vous disant votre prénom. Et puis je demanderai également aux enfants qui sont un petit peu répartis, s'il y a encore des enfants un petit peu dans la salle, de venir devant, parce que nous allons aussi organiser quelque chose avec les prénoms. Alors les enfants, si vous voulez nous rejoindre, c'est volontiers que vous venez devant. Alors, est-ce qu'il y a des enfants au fond de la salle? Venez peut-être devant. Et c'est vrai que je vous propose le mien déjà. Le mien, c'est Claude. Ensuite,
Jean-Christophe,
Samuel,
Eric,
Thierry,
Jessica, Élise,
Olivier.
Voilà, je vous propose qu'on continue notre louange avec un beau chant d'exo.
Jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voulons tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables. Acceptable selon tes desseins parfaits, et nous saurons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de perle nous comble de sa grâce, et nous saurons enfin l'épouse que ton amour a choisi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance le salut de Jésus. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Le
avant que je passe au prochain, avant que nous passions au prochain chant, je vous demanderai de rester debout. Je vais redire aux enfants, donc venez devant. On va mettre votre prénom aussi sur un. Alors les enfants, venez devant. On va inscrire votre prénom aussi. Peut-être Naomi, si elle peut venir aussi, ça serait cool. Et puis s'il y a d'autres enfants, venez devant. Comme ça, on va pouvoir mettre votre prénom sur une carte. Et j'aimerais remettre ce culte devant notre Père. Seigneur Jésus, nous voulons... Merci Seigneur tout d'abord parce que nous sommes en famille, nous sommes ton épouse, nous sommes ton épouse partie mérinoise. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons te glorifier, louer Dieu ensemble, en communauté avec toi. Et Seigneur, nous voulons que tu nous rejoignes ce matin, nous voulons invoquer ton nom, que tu sois présent au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons vivre ce temps communautaire vraiment dans l'amitié, dans l'affection. Et Seigneur, le vivre ensemble et entendre ta voix. Alors Seigneur Jésus, parle-nous, encourage-nous. Et Seigneur, j'aimerais aussi te remettre tous les absents pour cause d'accidents ou de maladies, tous ceux qui ne peuvent pas venir. Seigneur, j'aimerais aussi te les remettre entre tes mains, que tu leur fasses aussi du bien ce matin. Alors Seigneur, bénis-les aussi et bénis ce temps que nous avons ensemble. Amen.
Tous les hivers. prosterne. Tu es assis à la droite du
prochain chant, ton nom, de l'aube au coucher du soleil. juste petite une info technique. Donc il y a une voiture Zafira où les plaques commencent par... Elle est mal parquée. Il faudrait la déplacer. Oui. Autrement, désolé. Merci. Donc pour le dernier chant, ta bienveillance. Et c'est vrai qu'on va demander aux enfants, donc ce sera le dernier chant de cette louange, on va demander aux enfants de vous promener dans les allées avec votre prénom. Et ce sera l'occasion pour la communauté peut-être d'arrêter de chanter un moment et de prier pour un enfant qui passe à côté de vous. Donc les enfants, vous pouvez vous balader dans l'église, vous montrer bien votre prénom, et comme ça la communauté elle peut prier pour vous avant de rejoindre votre groupe. Alors allez seulement dans les allées, à l'extérieur, sur les bords et tout. Et puis comme ça, les parents et grands-parents et adultes, ils peuvent vous remettre dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ avant que vous alliez dans votre groupe. Alors je vous propose qu'on chante le chant « Ta bienveillance ».
Thank you.
Voilà, je vais prier pour vous les enfants et vous pouvez rejoindre votre groupe d'école du dimanche. Alors Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre ces enfants aussi, que tu leur parles, que tu leur fasses du bien. Seigneur, qu'ils puissent comprendre quelque chose de toi, combien tu es bon aussi avec les enfants et les adultes. Et Seigneur, que tu les bénisses aussi dans leur groupe du dimanche et que tu bénisses aussi les moniteurs qui les accompagnent et qui sont, et Minicelle aussi qui a lieu aujourd'hui. Alors Seigneur, que tu bénisses aussi les moniteurs et que tu leur donnes de la joie aussi dans ce service et Seigneur d'être avec nos enfants. Alors Seigneur, bénis les enfants et les moniteurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà les enfants, vous pouvez rejoindre votre groupe de moniteurs. Laissez encore bien, montrez encore bien votre prénom. Comme ça, on peut aussi penser à vous pendant le culte. Voilà, je demanderai à Philippe de me rejoindre. Est-ce que je peux prier pour toi, Philippe ?
Avec plaisir.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour Philippe. Merci pour cette famille mérinoise. Et Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Seigneur, que tu sois glorifié dans notre culte. Et Seigneur, que nous voulons aussi penser à tous les cultes qui ont lieu, toutes les personnes qui te glorifient aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons être avec eux, Seigneur. Nous voulons vivre ce temps à ton écoute, à entendre ta parole. Alors Seigneur, bénis Philippe, Seigneur, et bénis, parle au travers de lui et encourage-nous. Amen.
Merci. Bonjour à chacun, chacune. Nous continuons notre survol du livre des Actes et nous arrivons ce matin au chapitre 8. Au chapitre 7, la mort d'Étienne. Le martyr d'Étienne, la lapidation d'Étienne était quelque chose d'absolument atroce. Il a été lynché, Étienne, au milieu des cris de haine des gens les plus religieux de son peuple. Ce n'est pas sans rappeler le premier meurtre de l'histoire, celui d'Abel par Caïn, à cause d'un culte. Des hommes peuvent se tuer à cause d'un culte. La mort d'Étienne était quelque chose d'atroce. Il a probablement, d'après les historiens, laissé derrière lui une femme, des enfants, des amis, une église. Et l'église naissante a été privé par sa mort de l'un de ses éléments les plus brillants. Et ce crime a sonné le top départ d'une persécution extrêmement violente. Les premiers chrétiens ont commencé pour la première fois à craindre pour leur vie. Et comme d'autres chrétiens dans l'histoire depuis, eh bien, ils ont dû quitter leur ville, Jérusalem, en masse. Les chrétiens, à cause de la persécution, ont dû prendre les chemins de l'exil. Les chrétiens, donc, qui craignaient pour leur vie, quittent Jérusalem en masse, sauf les apôtres. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Où était Dieu? À Jérusalem, quand Étienne a été lapidé. Où était Dieu quand ces premiers chrétiens ont dû prendre les chemins de l'exil? Où était Dieu le dimanche de Pâques dernier, au Sri Lanka? Lorsque des attentats contre des chrétiens ont fait plus de 250 morts et des centaines de blessés, de veufs et de veuves, d'orphelins. Où est Dieu quand le malheur frappe? Hier matin, aux États-Unis, s'est éteinte une femme absolument remarquable du nom de Rachel Held Evans. Une auteure, une théologienne, une voix prophétique, une blogueuse, une conférencière chrétienne. En prenant des antibiotiques, son corps a mal réagi et elle est tombée dans le coma. Et au bout d'une quinzaine de jours, elle est décédée. 37 ans. Un mari, Dan, deux enfants, 3 ans, 1 an. Où est Dieu ? Où est Dieu quand les choses tournent mal ? Où est Dieu quand le malheur s'abat ? Où est Dieu quand tout s'effondre ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Nous, les chrétiens, nous ne disons pas que le mal est un bien. Nous ne disons pas non plus que le mal est juste déguisé en bien. Nous ne disons pas que finalement, c'est tout ce qu'il peut y avoir de mieux dans le meilleur des mondes. Nous, les chrétiens, nous essayons de ne pas devenir cyniques, de ne pas devenir détachés. Nous essayons de rester touchés par le mal qui impacte ce monde, parfois nos propres vies, les gens que nous aimons. La suite de l'histoire montre que Dieu peut transcender les pires excès de l'humanité. La suite de l'histoire montre que Dieu peut faire grâce, qu'il peut restaurer, qu'il peut ouvrir, lui, de nouveaux horizons. Il l'a fait à la croix en faisant jaillir la vie éternelle de la mort si injuste et cruelle de Jésus. Il l'a fait lors de la mort d'Étienne, comme nous le verrons. Sur les sites internet qui parlent des attentats au Sri Lanka il y a 15 jours, on lit aussi des fruits inattendus de ce qui s'est passé. Et je crois que Dieu le fera certainement pour nous quand nous confronterons les pires épreuves, les plus cruelles désillusions. Il reste aux commandes. Il reste aux commandes. Et puis, dans le prolongement de ce récit, nous allons voir d'autres aspects des voies mystérieuses de Dieu, et en particulier pour ce matin, son action dans la vie des gens, par l'Esprit. Mais commençons par le commencement. Et lisons, je vous propose, la première moitié d'acte 8. C'est Francine qui va lire ce texte pour nous, acte 8, 1 à 25.
Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. « Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains, et ils reçurent l'Esprit-Saint. Simon vit que l'Esprit-Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi. » Et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, « Priez-vous même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant l'Évangile dans un grand nombre de villages samaritains.
Que penser de la dispersion de tous les croyants au jour de la persécution ? Versets 1 à 3. Que penser de la dispersion de ces croyants ? Eux devaient probablement le vivre comme un drame, comme n'importe qui doit quitter sa ville, son pays, sa patrie, prendre les routes de l'exil. C'est un drame toujours, toujours. Mais dans leur cas, cela ne les a pas empêchés de proclamer le message de la bonne nouvelle. Verset 4. Dieu agit donc, même quand le mal semble triompher. Ils annoncent le message de la bonne nouvelle. On peut même penser qu'ils devaient expliquer à leurs cousins, à leurs amis, pourquoi ils quittaient Jérusalem à la hâte. Pourquoi ils se retrouvaient sur les routes de l'exil ? Pourquoi ils devaient partir, refaire leur vie ailleurs ? Ils ont même pu s'inspirer du message d'Étienne, du message des apôtres persécutés, pour dire que le rejet du Messie de Dieu était annoncé dans les Écritures et que leur propre malheur n'avait rien de surprenant. Voilà ce qui s'appelle rebondir. Voilà là où d'aucuns parleraient de résilience. Et ce n'est pas tout. Ils rebondissent, oui, mais les chrétiens n'avaient pas prévu de le faire. Mais ils sont en train de réaliser là la promesse que Jésus avait faite aux apôtres de l'incarner dans leur propre migration. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et ça, tac, ils sont là en train de le vivre.
à commencer par la Samarie. On pourrait se poser la question, hein, est-ce qu'ils avaient trop traîné pour s'engager dans cette mission ? C'est possible. Mais dans tous les cas, le meurtre d'Étienne était un formidable coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ainsi que le deuxième étage de la fusée de l'Évangile s'est allumé. Dieu agit même quand le mal semble triompher. Même quand vous êtes, quand nous sommes au bout de nos ressources, même quand toutes les fenêtres sont closes, même quand tout le mal du monde semble s'acharner, Dieu agit. Dieu agit. Et puis, Dieu agit à travers ses serviteurs, ses servantes, à travers ses enfants, à travers les chrétiens et les chrétiennes. Et parmi les chrétiens dispersés se trouvait un des collègues d'Étienne, du prénom de Philippe. Il avait la même vision très large de l'Évangile que son frère Étienne. Lui non plus ne s'est pas contenté d'un ministère pratique au service des pauvres, ce qui était déjà remarquablement bien. Mais en plus de ça, il s'est donné à l'annonce de la parole, comme quoi il ne faut pas trop cloisonner les ministères. Il s'est donné à l'annonce de la parole. Et pas n'importe où. Dans la capitale de la Samarie, chez les frères ennemis des Juifs, verset 5, chez les Samaritains. Et il ne l'a pas fait au hasard des rencontres. Ce n'est pas quelque chose qu'il a développé dans un petit cercle familial, mais il l'a développé auprès de gens très différents de lui, qui avaient leur propre religion, leur propre coutume, leur propre façon de faire, chez les Samaritains. Et je pense que Philippe, c'est le premier missionnaire transculturel de l'histoire chrétienne. C'est qui nos Samaritains ? C'est qui ton Samaritain ? C'est qui la personne qui est tellement différente de toi que tu te dis « bah, ça vaut pas le coup ». Je regarde d'un petit peu plus près maintenant son ministère à Samarie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait chez les Samaritains quelques éléments qui les ont préparés à la réception de l'Évangile. Parce que Dieu travaille comme ça. Parce que Dieu sème des trucs qui fait qu'à un moment donné, quand l'Évangile est annoncé, on se dit « mais bien sûr, c'est ça ». Les Samaritains, par exemple, reconnaissaient qu'il y avait un seul Créateur. Ils avaient même une version du Pentateuque, pas tout à fait complète, mais quand même une bonne version du Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, et ils avaient la loi de Moïse en particulier. Comme les Juifs, ils offraient à Dieu des sacrifices d'animaux. Et puis surtout, Jean 4, verset 25, les Samaritains attendaient le Messie. Ils espéraient un sauveur. Ils attendaient que les lignes bougent. Ils savaient qu'ils ne s'en tireraient pas seuls. Alors ils détestaient les Juifs. Ils n'auraient pas eu l'idée d'aller mettre les pieds à Jérusalem. Ils ne reconnaissaient ni les psaumes ni les prophètes. Mais ils avaient dans leur religion quelques éléments de vérité. Et je trouve toujours intéressant de réfléchir à ça. Quels sont les éléments de vérité dans les autres religions qui nous permettent à nous, chrétiens, de créer des ponts ? Et il y en a. Et puis, chez les Samaritains, il y avait un certain nombre de personnes qui tenaient Jésus en haute estime. Par exemple, le lépreux guéri, enfin je dis le lépreux guéri, il y en a eu 10 en Luc 17, verset 1 à 9. 10 lépreux guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Et ce lépreux guéri qui revient vers Jésus et qui tient Jésus en haute estime, c'est le seul qui est Samaritain. Et puis il y a cette femme que Jésus a rencontrée au bord d'un puits et qui a cru en lui.
Plusieurs de ses concitoyens qui, à la suite de son témoignage à cette femme-là, ont écouté Jésus, puis ont cru en lui, le texte le dit, Jean 4. Il y avait des Samaritains qui tenaient Jésus en haute estime. Et je vous propose qu'il y a dans les gens religieux ou pas autour de nous, des gens qui tiennent Jésus en haute estime. Et qu'au minimum, c'est un début dans notre témoignage. Philippe, en tous les cas, avait un message clair. Notre passage dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ. J'aime tellement cette définition de l'Évangile, qui n'est pas dans la culpabilisation à outrance, qui n'est pas dans le faire à outrance, mais qui est dans l'annonce de l'irruption de la bonne nouvelle de Dieu. Je pense que Philippe s'est inspiré de la prédication de Jésus, qui s'est inspiré de la prédication des apôtres. Je pense que ceux qui croient et qui s'engagent en tant que disciples de Jésus, eh ben, ils ont de l'importance pour lui. Ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, ils ont de l'importance pour Philippe, parce que le texte nous dit qu'il les baptise. C'est pas rien de les baptiser. Et Dieu lui-même a appuyé le message de Philippe en lui permettant de faire des miracles de guérison et de délivrance. Pas des petits miracles, hein. Pas un truc, j'ai un peu mal au dos, il faudrait que ça aille mieux. Mais le texte nous dit des guérisons d'infirmes et de paralysés. Pas des petites délivrances. Mais le texte nous parle d'exorcisme bruyant, et le bruit ne venait pas de Philippe. Le verset 13 parle de prodiges extraordinaires. Et voilà donc que l'Évangile avance, parce que Dieu agit. Et que l'Évangile qui avance, ben là en l'occurrence, il va même toucher un gourou du nom de Simon. Simon le magicien, que les gens tenaient pour la manifestation même, nous dit le texte, de la puissance de Dieu. Ben lui, il se fait renverser par la puissance de Dieu. Le mec qui croyait la détenir, eh ben, il est touché par l'Évangile. Une très belle prise, comme on dit. Dieu agit même quand le mal semble triompher. Dieu agit à travers ses enfants, à travers un gars comme Philippe, à travers la femme samaritaine. Dieu agit au travers de ses enfants. Pas les plus grands noms, pas ceux qui ont forcément laissé une immense trace dans l'histoire, mais des hommes et des femmes ordinaires qui ont à cœur d'incarner l'Évangile de la Bonne Nouvelle. En un certain sens, il y a un peu de quoi être jaloux de Philippe, je trouve. Et pourtant, il manquait un truc à son palmarès. Il manquait le don du Saint-Esprit. Et c'est ma troisième piste avant de conclure. Dieu agit par son esprit. Le verset 16 dit que les Samaritains n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit et pourtant ils se convertissent. Dites-moi, comment est-ce que c'est possible d'être libéré d'une présence maléfique sans que l'esprit ne vienne immédiatement combler le vide ? Comment est-il possible d'accepter la parole de Dieu, de croire en Jésus-Christ, de se faire baptiser même, sans l'action du Saint-Esprit ? C'est un casse-tête pour les théologiens, ça. Bon, en même temps, en posant la question de cette manière, je vous ai un peu induit en erreur. Parce que le verset 16 ne dit pas que les Samaritains n'avaient pas reçu l'Esprit. Le verset 16 dit que l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux ou pas encore littéralement tombé sur eux. C'est des mots forts. Hein. L'esprit qui tombe sur eux, ça vous fait penser à quoi ? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Une autre chose qui fait penser à la Pentecôte ici, c'est que Simon voit que le Saint-Esprit est donné par la main des apôtres, verset 18. Qu'est-ce qu'il a vu ? Une simple prière avec une imposition des mains ? Ah non, sans aucun doute, il a vu un truc suffisamment fort pour qu'il ait envie de l'acheter. pas juste une prière comme ça, je prie pour que tu reçoives le Saint-Esprit, un truc très fort pour qu'il ait envie de l'acheter. À mon sens, ici, les gens parlaient de la part de Dieu, dans leur propre langue et en langue inconnue. Ils prophétisaient comme à la Pentecôte. Il n'était pas nécessaire, je pense, que Pierre et Jean débarquent de Jérusalem pour que Dieu agisse dans la vie des Samaritains. Philippe avait déjà fait pas mal de miracles sans qu'il ait besoin que Pierre et Jean n'arrivent. Mais, en même temps, sans la présence des apôtres attitrés, à ce moment-là, la continuité entre les nouveaux chrétiens de Samarie et leurs frères et sœurs de Jérusalem n'aurait pas été une continuité très claire. Sans une nouvelle Pentecôte, il est probable que les Juifs chrétiens n'auraient pas accepté les Samaritains chrétiens, comme ils auraient du mal à accepter la conversion de Corneille et des siens au chapitre 10. Il fallait donc que Pierre et Jean viennent, qu'ils leur ouvrent la porte et puis que l'Esprit descende de façon incontestable et évidente. Dans le tout premier temps de leur conversion, les Samaritains ressemblaient aux croyants de l'Ancienne Alliance. Ils ressemblaient aux disciples de Jésus dans les Évangiles. Après leur Pentecôte à eux, ils sont pleinement intégrés dans le peuple de Dieu. Je ne pense pas que le parcours des Samaritains soit un modèle pour tout le monde. Parfois on le pense, parfois on se dit, purée, il faudrait une deuxième expérience de l'Esprit. Regardez, la preuve, là, il en a fallu une. Il me semble plutôt que les Samaritains, c'est un jalon historique important dans la fondation de l'Église. L'Église, elle est ouverte à tous. Nous avons besoin de déterminer qui sont nos Samaritains. Il faut arrêter de rester dans le bocal. Quand les chrétiens restent dans leur bocal, le Seigneur envoie des circonstances pour les faire sortir. Là, c'était la persécution. Réfléchissons à qui sont nos Samaritains. Dieu agit par son esprit. Parfois lors d'événements exceptionnels, comme ici, et parfois de manière beaucoup plus discrète. Mais Dieu agit. Et quand Dieu agit, il y a une leçon que je tire ici. Quand Dieu agit, il nous faut faire attention aux contrefaçons et aux fraudes. Il y a un hic ici. Et le hic, c'est cette prise de guerre exceptionnelle qu'était Simon le magicien. Le verset 13 dit que Simon le magicien a cru et qu'il a été baptisé par Philippe. Il a cru Philippe, il a cru le message de Philippe, et son baptême devait donc avoir un minimum de sens. Il signifiait en principe la repentance, la rupture avec l'ancienne manière de vivre, le désir de marcher avec Dieu, la reconnaissance de Jésus comme sauveur et comme Seigneur de sa vie, comme tout baptême. Entre parenthèses, nous espérons pouvoir tenir un service de baptême, ici, le 23 juin. S'il y a ici des gens intéressés par le baptême, qui se posent des questions sur le baptême, n'hésitez pas à venir me voir. Le baptême comme signe de rupture. Est-ce que Simon le magicien était sincère? Ben, on n'en sait rien. Il était peut-être sincère au début, et puis peut-être encore très marqué par des années de pratiques occultes et de supercherie. C'est des choses qui marquent l'occultisme. Est-ce qu'il était réellement converti à Jésus et né de nouveau, comme on dit? Ou est-ce qu'il s'illusionnait lui-même? Est-ce que Philippe s'est laissé avoir? Ça me pose question, moi, comme pasteur. Est-ce que des fois, je pourrais me faire avoir? On peut le penser, hein, qu'il s'est fait avoir ici. Mais sans savoir ce qu'il en était au fond. Parce qu'en fait, ce n'est pas très important. Nous ne savons même pas si Pierre et Jean lui ont imposé les mains. On ne sait même pas si l'Esprit est descendu sur lui, comme sur les autres convertis de Samarie. Mais ce que nous savons à coup sûr, versets 18 et verset 19, c'est que Simon était fasciné par le pouvoir de Philippe. Il opérait de vrais miracles, Philippe. Pas des tours de passe-passe, comme Simon le magicien. Philippe, c'est un modèle pour Simon, pas par sa foi, pas par sa vie, mais par le pouvoir qui émane de lui, par l'impression que Philippe fait sur les foules, par le potentiel que Philippe représente. Il impressionne Simon le magicien. Et pas seulement Philippe, hein, mais Pierre et Jean aussi. La puissance de l'esprit qui a accompagné leur ministère donnait envie à Simon. Imaginez comment les foules vont aduler quelqu'un qui leur promet autant que Philippe, autant que Pierre et Jean. Imaginez ce que les foules seraient prêtes à payer. S'il peut acheter ce pouvoir, le gourou va rouler sur l'or, quitte à duper tout le monde. Et c'est à cause de ce raisonnement-là que Pierre est tellement sévère avec lui, au verset 20 à 23. Il lui dit qu'il est captif du mal, qu'il est rempli d'amertume, qu'il est rempli de méchanceté, que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Pierre semble dire qu'il n'a aucune part à l'évangile. « Mon gars, tu te plantes complètement. » C'est assez violent. Tout ça parce que Simon le magicien, il a pensé argent, puissance, pouvoir, appropriation des choses de Dieu, exploitation des choses de Dieu, manipulation des gens, au lieu de penser vérité, service et sainteté. Trois choses, à mon sens, qui devraient marquer n'importe quel exercice de ministère dans l'Église. Vérité, service et sainteté. Est-ce qu'il y a des Simons de nos jours? Certainement. Est-ce qu'il y a des fakers, des usurpateurs, des tricheurs, des menteurs, des gens qui peuvent promettre bien plus que ce qu'ils n'arriveront à tenir? Pensez à tous ces voyants qui font de la réclame dans la presse puis sur Internet. Toutes les semaines, les journaux racontent le cas d'hommes qui ont abusé de leur influence sur les autres, dans tous les milieux, dans tous les milieux, y compris dans l'Église. Y compris dans l'Église. Imaginez qu'on peut acheter le don de Dieu avec de l'argent. Vous savez comment ça s'appelle? La simonie de Simon le magicien. Tu pourrais être béni, mon frère, ma sœur, si tu donnais un peu plus. Et si ça venait dans ma poche, probablement que ce serait encore mieux. Certains chrétiens le pensent, le croient, s'endettent même pour le faire. J'en ai connu. Qui se sont endettés en croyant pouvoir acheter le don de Dieu. Quelle horreur! Quelle horreur! Quand Dieu agit, attention aux contrefaçons. Il faut conclure. Où est Dieu quand les choses tournent mal, apparemment? Où est Dieu quand les choses s'effondrent, quand rien ne va droit, quand tout part de travers? Les voies de Dieu, elles sont parfois étranges, hein, mais il agit même lorsque le mal semble triompher. Il agit à travers ses serviteurs, ses servantes, des hommes, des femmes comme vous et moi, de tous âges, de toutes conditions sociales, de toute expérience préalable, des hommes et des femmes qui le servent. Il agit souverainement par son esprit et il fait des jaloux, des imitateurs dont nous devons nous garder. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie à vous? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu, au cœur de vos circonstances faciles ou plus complexes, voire carrément hostiles? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre église, dans la ville de Mérin,
qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je prie que nous puissions le discerner, ce que Dieu est en train de faire, et puis collaborer joyeusement avec lui, comme Philippe, à fond. Amen.
Je vous propose que nous restions en méditation par rapport à ce qui a été dit par Philippe, par la question qu'il nous lance. Et puis que nous chantions « Recueillis et assis », un peu ce chant qui dit « C'est dans le calme et la tranquillité qui est notre force », et que nous puissions le chanter comme une prière que nous pouvons adresser à Dieu. Alors restons assis et pensons à toutes ces paroles et à cette interrogation que Philippe nous a donné. Et ensuite, je vous proposerai qu'on continue par un moment de prière libre, ou s'il y a un témoignage, si par rapport à cette question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie ? Si quelqu'un veut partager quelque chose, alors il n'a qu'à simplement s'approcher vers moi et on pourra le partager au niveau de la communauté. Libre à vous.
Sometimes.
Oui, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux faire de notre vie, Seigneur Jésus? Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop où tu veux nous emmener. Mais Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, nous voulons croire que toi, tu fais des bonnes choses. Tu fais des bonnes choses dans notre vie et tu veux faire des bonnes choses. Tu veux que nous soyons tes témoins. Non pas pour faire des gens des marionnettes ou des faussaires, mais Seigneur, parce que toi, tu as un message de vie. Tu as un message qui construit. Tu as un message qui est bon pour notre vie et pour la vie des autres. Et Seigneur, convainc-nous au fond de nous-mêmes que ce message est bon. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons aussi avoir comme témoin toutes ces personnes dans ces pays musulmans qui acceptent de te suivre au péril de leur vie. Et Seigneur, est-ce là aussi un témoignage pour nous de dire que oui, ça vaut la peine de te suivre et ça vaut la peine d'entrer dans ton plan et Seigneur, de pouvoir être témoin. Alors Seigneur, bénis-nous Seigneur, ton Esprit Saint. Bénis-nous Seigneur, que nous puissions être tes témoins Seigneur, en amour, en parole et Seigneur, que nous puissions aller dans nos Samaries à nous et Seigneur, que nos vies puissent te glorifier. Amen.
Joseph, vendu par ses frères, a passé plusieurs années en prison. Et quand il a retrouvé ses frères, il leur a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et plus tard, il leur a dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Seigneur, que oui, dans nos circonstances pas faciles, puissions être à ton écoute pour que nous discernions ce que tu veux nous dire, ce que tu veux peut-être changer en nous, ou bien les progrès qu'on doit faire, qu'on puisse être sensible à ton Saint-Esprit en reconnaissant que tu es souverain dans nos vies. Seigneur, je te le demande comme une grâce pour chacun de nous, dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, comme Philippe a traversé la Samarie et a annoncé l'Évangile, et beaucoup de gens l'ont reçu avec joie. Et Seigneur, que nous-mêmes soyons convaincus que cette bonne nouvelle, elle peut être reçue avec joie. Alors Seigneur, que nous puissions être tes témoins, Seigneur, non pas en disant que c'est un plus ou quelque chose d'accessoire pour la vie, mais que ce soit vraiment un sujet de joie, que nous puissions vraiment transmettre avec enthousiasme, parce que Seigneur, c'est ton évangile, cette bonne nouvelle de ton amour pour nous et de ton œuvre auprès du Père, c'est vraiment un sujet important et, Seigneur, un sujet pour la vie et pour l'éternité aussi. Alors, Seigneur, mets ton Esprit Saint pour que nous soyons convaincus que c'est quelque chose d'indispensable pour la vie de chacun. Alors, Seigneur Jésus, merci aussi pour pouvoir le partager aussi, pour pouvoir avoir de la convivialité aussi, pour pouvoir partager en toutes circonstances cette bonne nouvelle que toi tu aimes, et Seigneur, que ce soit quelque chose d'important que nous puissions transmettre. Nous en soyons convaincus. Amen. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, des prénoms, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon, Judas, vous les connaissez, n'est-ce pas? Charlabel, Denise, Francine, Paul Robert, Anne, Werner et tous les prénoms de ceux qui sont ici. Et Jésus pourrait citer tous vos prénoms pour vivement manger ce repas avec vous. Non seulement vos prénoms à chacun, mais également cette communauté mérinoise. Il a réuni un petit peu son groupe de travail, son groupe qui a évangélisé ou qui a partagé ces 3 ans. Il les a réunis pour ce repas. Et je crois que non seulement il nous réunit, nous, en tant que notre prénom, en tant que personne, mais il nous réunit, nous, en tant que communauté, alors mérinoise aussi, mais également dans toutes celles qui se rencontrent aujourd'hui et qui le glorifient. Donc pour ce repas que Jésus a vivement partagé avec chacun d'entre nous et avec l'Église évangélique de Mérin, hein, il a voulu aussi expliquer un peu son projet de Dieu. Expliquer le projet de Dieu, cette finalité du projet de Dieu, c'est de créer une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, donc, il l'a matérialisée par le pain et le vin, en donnant son corps et en partageant son sang. Et ce projet de Dieu de nous rejoindre chacun dans notre prénom, dans notre identité, dans notre prénom, dans ce nom de communauté évangélique de Mérin, ainsi que les autres, hein, on n'est pas exclusif, mais c'est de rejoindre et de créer cette nouvelle alliance, de dire, ben, tu es mon enfant, tu es mon ami, tu es celui que j'aime ou celle que j'aime. Donc, je vous propose qu'on partage la Sainte Cène en se rappelant que nos prénoms, ils sont aussi autour de la table de Jésus-Christ. Et je laisserai Francine lire l'institution de la Sainte Cène.
Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. »
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas en perdre une miette. Nous ne voulons pas en perdre une goutte. Merci pour ta bonté, pour ta générosité, pour ta grâce qui surpasse tout. Merci pour ton salut qui vient fortifier nos vies au quotidien. Et pour cette occasion qui nous est donnée de nous en souvenir ensemble. Merci de nous aimer comme tu nous aimes. Amen. Je vous lis simplement deux phrases de Rachel Held Evans, deux phrases qui, à l'époque et aujourd'hui encore, nous ont profondément touchés, Heidi et moi. L'Évangile n'a pas besoin d'une coalition consacrée à garder les mauvaises personnes dehors. L'Évangile a besoin d'une famille de pécheurs sauvés par la grâce, dédiés à abattre les murs et à garder les portes grandes ouvertes en criant « Bienvenue, il y a ici du pain et du vin. Venez, mangez, buvez, tout est prêt. »
Nicolas, est-ce que tu peux nous rejoindre et peut-être encore une personne de l'Assemblée ? Pour la distribution. Et comme d'habitude, donc dans les plateaux, donc à l'intérieur, sur les gobelets rouges, c'est du sans alcool, autrement, c'est du vin traditionnel. Si vous souhaitez la coupe, vous avez simplement à lever la main. Et si vous avez encore une prière peut-être à exprimer ou un chant à proposer, sentez-vous libre.
Bon, je vais m'entraîner un petit peu. Non, mais justement, il y a bientôt, je crois, un concert et puis.
Ouais. Alors,
j'aimerais jouer
mieux,
au concert.
Le mieux par rapport au concert, ce serait que tu commences par poser la guitare, blesse personne.
Oh, mais d'ici là, j'ai peut-être le temps de m'entraîner pour être.
Alors, je pense que l'équipe qui s'est bien entraînée depuis quelques mois déjà sera plus au point. Enfin, t'es au courant quand même.
Oui, il y a quelque chose qui se passe, c'est pour ça que je m'entraîne.
D'accord.
Mais, je pense qu'il faudra effectivement plus que quelques semaines ou quelques
jours
pour arriver.
Mais peut-être tu peux venir quand même.
Alors ça, oui.
Et puis on pourrait inviter chacun, chacune à venir.
Oui.
Alors, à venir où?
Alors au concert Hortus, hein, mais je crois qu'il y a un représentant par ici, il est où Il est où il y a, est-ce qu'il y a Mathieu? Est-ce qu'il y a Philippe?
Ah, c'est encore des prénoms, quoi.
C'est encore des prénoms.
Et puis c'est quand même des prénoms connus ici. Alors, Mathieu Vite. Schmitt, Philippe Vite. Sewell, et Sylvain Clément, Wenger, Pierre, Clément Barral, et puis Alexia. Alors, samedi prochain, 20h, venez encourager... Non, venez pas encourager Claude. venez encourager Hortus.
Oui,
c'est un concert gratuit, oui. Avec un chapeau à la sortie, et la possibilité aussi de se procurer leur nouveau CD, parce que ce concert cadeau, c'est le vernissage de leur nouvel album. À ne pas manquer, samedi prochain, 20h, ici. Et peut-être que s'il y a plusieurs rappels, Claude jouera quelque chose.
Ah, qui sait ?
Quelques autres annonces. D'abord, j'aimerais saluer chaleureusement Jean-François Negrini, qui est avec nous ce matin. De retour de terrain missionnaire. Peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Jean-François, tu veux bien juste te lever, s'il te plaît. Voilà. On aura l'occasion, Dieu voulant, de l'entendre. Mais en tout cas, bienvenue Jean-François. Et puis tout à l'heure, on peut continuer l'échange. Ce culte sera suivi non seulement par le café, mais encore par un repas canadien. N'hésitez pas à rester pour partager ce que vous avez amené ou pas, mais nous prendrons le temps d'être ensemble autour des tables. Au rang des annonces, je ne sais pas s'il y a d'autres fly. Voilà. Walk and Pray, donc l'offensive de prière dans les rues de Genève et de Meran en particulier, avec une prochaine occasion ce jeudi 9 mai à 9h30, départ depuis devant le CEPOM. Thierry ?
La prochaine, c'est dans 3
minutes. Ah oui, c'est juste. La prochaine, c'est dans 3 minutes pour ceux qui le souhaitent dès après ce culte. Ce jeudi soir, rencontre du conseil. Pourquoi on le met comme ça tous les 15 jours sur les annonces ? Parce qu'on aimerait vous inviter à prier pour nous. Merci de prier pour le conseil des pasteurs et nos travaux importants actuellement. Dimanche prochain, le culte, bien sûr, avec David Porter à la prédication. Cet été, les activités estivales avec des camps qui sont proposés et en particulier potentiels du 1er au 5 juillet sur le site de l'Institut biblique de Genève. Le nouveau mémo reste disponible, je crois qu'il est imprimé en orange, et vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site internet. Et c'est tout, je rappelle juste l'occasion d'avoir un service de baptême le 23 juin prochain. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir ou Claude Bécher.
Je passe vraiment juste 2 minutes pour vous partager un petit peu ce que nous avons vécu à la rencontre générale de la FRE. Alors vraiment juste 2 minutes. Alors il y a eu la partie statuée avec les comptes, avec tout ça, ça s'est bien passé, ça a été voté. Par contre, j'aimerais partager avec vous le sujet des églises missionnelles. Alors c'est vrai qu'on se pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire missionnel ? Missionnaire, oui, on comprend, mais missionnel. Et je trouve que ça va bien avec notre culte, parce que Philippe a été missionnaire, mais avant il était missionnel. Dans le sens où missionnaire, il y a une connotation, enfin une notation d'aller dans un autre pays, et missionnel est plutôt à l'intérieur du pays. Donc c'est vrai que vivre à Meran, rencontrer Meran, eh ben, c'est tout à fait notre rôle d'être église missionnelle. Et dans le cas de la FRE, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est un sujet de la FRE qui lui tient à cœur, c'est de pouvoir que voir les églises de la FRE puissent sortir de leurs murs et être missionnels. Et nous avions eu un débat avec avec des personnes très missionnelles, style, je vais vous donner juste Patrick Ray de l'Église du Réveil. Patrick Ray, président de la Fédération des Églises du Réveil, Christian Kuhn, secrétaire général du réseau évangélique, et Bob Davet, fondateur de New Life, réseau d'églises de maison. Donc, entre ces trois personnes, ils ont vraiment appuyer sur cette église missionnelle,
soit en allant dans la rue, comme un petit peu on a parlé de cette prière pour Mérin, mais aussi par des églises de maison, par des groupes où nous pouvons aussi approfondir notre foi. Donc ça, c'était un peu le thème principal de, et très intéressant et très riche. Et j'étais bien content de participer à cette rencontre de la Frey. Voilà. Merci. Ah oui, la suite. La suite, c'est l'offrande. Alors, on va aller... J'ai demandé au musicos de continuer. Toi seul es digne. Et c'est vrai que nous allons partager l'offrande. Alors, je vous demanderai de vous lever. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre cette offrande. Seigneur, cette offrande pour que notre Église soit missionnelle et que nous ayons aussi, nous puissions aller dans nos Samaries à chacun d'entre nous. Alors, Seigneur Jésus, que tu bénisses celui qui va gérer cet argent. Et Seigneur, merci aussi pour pouvoir partager ce que tu nous as donné. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu le bénisses et qu'il serve à l'avancement de ton royaume et à participer à la joie de transmettre cette bonne nouvelle qui est de ton amour pour chacun d'entre nous. Amen.
Je vous invite simplement à vous lever et je lis trois versets au psaume 62. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon sauveur, mon refuge. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Très belle semaine à chacun, chacune.